paru dans la Revue des Deux Mondes en juillet 1829, d'un auteur qui ne se désigne que par ses initiales, RWST2, La Folle de Baptiste Licat. Je venais de franchir la montagne qui sépare le beau vallon d'Ornano de celui de Bastilica. Monté sur un de ces petits chevaux corses, laids, têtus et pleins de feu, je lui laissais descendre, la bride sur le cou, une pente rapide à travers les massifs épais d'une forêt vierge. La beauté du paysage, la pureté de l'air, le calme de cette nature majestueuse me reposaient du babil de mon guide. Vêtu d'un grossier surtout de poils de chèvre, son fusil en bandoulière, coiffé du bonnet national, semblable à un clocher de village, il marchait devant moi, se retournant à chaque instant pour me raconter de longues histoires de bandits qui, loin de m'effrayer, ne me causaient que de la fatigue et de l'impatience. Tout à coup, je le vis s'arrêter, saisir son long fusil à monture de cuivre, s'élancer en bas de son cheval, et, le nez au vent, jeter sur les buissons son œil gris et enfoncé qui semblait en percer la profondeur. Le feuillage parut s'agiter. « Ce sont des bandits ou un sanglier !» me dit-il. Et déjà il ajustait, lorsqu'un éclat de rire sauvage sortit du buisson. « Ah, c'est K !» s'écria-t-il en remettant son fusil à terre. « J'allais prendre une chrétienne pour une bête fauve. Mais cette fois, il n'y a pas grande différence. » Je ne comprenais pas ces paroles. Un regard sur le buisson me les expliqua. Comment décrire l'objet qui en sortit? Ça avait été une femme. Ce n'était plus qu'un corps nu jusqu'à la ceinture. Une grossière peau de chèvre voilait à peine le reste. Des jambes nues aussi et déchirées par les ronces apparaissaient sous ses informes vêtements et de longues mèches de cheveux noirs descendaient sur ses reins et voilaient une partie de son sein. Ses formes admirables, dignes du ciseau d'un sculpteur, avaient été flétries par le soleil et brunies comme son teint jusqu'à perdre leur couleur naturelle. La vivacité enfantine de sa démarche, le sourire sans joie et sans pensée qui errait sur ses lèvres, faisait un contraste déchirant avec l'horrible fixité de ses regards. On eût dit que seul encore avait la conscience de sa douleur. Il n'y avait plus d'âme que là. Le reste était d'une folle. Elle s'approcha en bondissant plutôt qu'en marchant et en poussant quelques éclats de rire sauvages qui m'avaient effrayé. Elle s'arrêta droit devant nous, puis écartant de sa main ses cheveux en désordre. « C'est toi, Pietro ? » dit-elle enfin après m'avoir regardé longtemps, comme si elle cherchait dans ses souvenirs. Et son œil étincela d'une joie où il y avait encore un éclair de raison. « C'est toi, » répéta-t-elle plus lentement, et déjà plus triste, comme si cette lueur passagère s'était évanouie avec son fragile espoir. Je l'avais comprise, mais mon grossier compagnon s'approcha d'elle et lui frappant sur l'épaule. « Eh bien, c'est cas. « Non, tu ne l'as pas trouvé !» lui dit-il avec une rude gaieté. Toute folle qu'elle était, elle sentit l'insulte. Son œil s'alluma du feu de la colère. « Non, je ne l'ai pas trouvé !» reprit-elle en grinçant des dents et en levant sur lui une main menaçante qui le fit reculer, tout armé qu'il était. Mais à l'instant, ses idées prenant une autre direction, elle s'arrêta. « Je suis patiente, » dit-elle. « je sais où le trouver. » Et poussant encore quelques éclats de son rire convulsif, elle nous échappa aussi légère qu'un chamois et s'enfonça dans les taillis. Pendant cette rapide apparition, j'étais resté à la même place, saisi d'étonnement encore plus que de pitié. Mes yeux, fixés sur l'endroit où elle venait de disparaître, suivaient encore sa trace. Mais l'imperturbable loquacité de mon guide me tira bientôt de ma surprise. « Voulez-vous la revoir encore ?» me dit-il. Et sans attendre ma réponse, il ramena nos chevaux qui étaient restés à paître. Nous nous mîmes en route, et chemin faisant, le guide me raconta l'histoire de la pauvre folle. Seka était la fille d'un cultivateur aisé du plus élevé des 4 ou 5 villages qui forment le bourg de Bastilica. Sa famille pouvait fournir 12 hommes d'armes au besoin. C'était la plus jolie fille du hameau, et malgré le dédain héréditaire que les hommes affectent pour les femmes, quand la jolie Seka, parée de son foulard blanc et de son collier de corail, allait à l'église le dimanche, son vieux père, chasseur d'hommes et de chamois, se sentait fier de voir les regards des jeunes gens s'arrêter sur elle et se consolait presque de n'avoir pas de successeur mâle pour hériter un jour de ses châtaigniers, de ses haines et de son fusil. La fleur des jeunes gens du pays, ajouta mon guide, et un regard significatif m'apprit qu'il se comptait de ce nombre, prétendait à la main de Seka, en dépit de 5 ou 6 vengeances enracinées qu'il fallait épouser avec elle. Mais malgré l'adresse et le courage de tous ces amoureux à la longue carabine, Seka n'avait pour eux ni yeux ni oreilles. Tout cela, avec son cœur, était pour Pietro, riche possesseur du village inférieur, mais d'une famille mortellement ennemie de la sienne, et dont le père avait été tué par celui de Francesca. Malgré ses souvenirs de haine et de vengeance qui sont une religion en Corse, malgré la chemise sanglante du mort suspendue au-dessus du lit de Pietro, malgré la balle de plomb qu'il avait tuée et qu'il avait juré de porter à son cou jusqu'à ce qu'il fût vengé, l'amour avait pourtant trouvé place dans le cœur du jeune homme. Peut-être, par un raffinement de vengeance italienne, l'idée de s'emparer ainsi des affections de la fille même de l'homme qu'il haïssait le plus lui souriait autant que la jolie figure de Seka. Peut-être y avait-il pour son amour, dans ce contraste même, quelque chose qui l'attirait encore. Enfin, Pietro aimait Seka, et Seka n'était pas ingrate. Depuis bien des années, les deux familles, séparées par tant de haine, s'étaient fermées réciproquement l'entrée de leur village, et plus d'un coup de fusil échangé ou reçu avait fait respecter la consigne. Mais Seka ne manquait pas de prétexte pour aller à la montagne, ni Pietro de chemin pour la retrouver. La nuit, à son tour, l'amant savait se glisser sans être vu à travers les rues étroites et les sentiers du chemin pour rendre visite à sa bien-aimée, et la guitare indiscrète avait plus d'une fois célébré ses louanges. Mais entre se voir, s'aimer même, et faire consentir le père de Seka à leur union, il y avait encore bien des obstacles à vaincre. La montagne de Bastilica aurait plutôt marché vers le Mont d'Or. Y eût-il consenti d'ailleurs? Pietro n'en avait pas moins juré de laisser croître sa barbe jusqu'à ce qu'il fût vengé, et Pietro était d'une race où, de père en fils, on ne manquait pas à cette parole-là. Plus d'une fois même, il avait fait tressaillir la pauvre Seka par ses malédictions contre son père et ses serments de vengeance. Elle l'apaisait en le caressant, mais Pietro pouvait rencontrer son ennemi au coin d'un bois et elle ne serait pas toujours là pour le caresser. Bref, ce que Seka craignait arriva. Son père, instruit par quelque rival des échappées de sa fille chérie, chercha et finit par trouver Pietro, l'insulta et lui dit que s'il le rencontrait encore dans la paroisse, il tirerait sur lui comme sur un gendarme. Pietro, hors de lui, oublia ces cas et ne pensa plus qu'à son père. Pauvre Giovanni, ajouta mon guide, il eut un coup de sang. Il tira sur le père de son amante, mais l'amour détourna le coup, quoique tiré à bout portant, et celui-ci en fut quitte pour une légère blessure. Pietro se sauva dans les bois, et dès ce moment, il fut un bandit. Il commença cette vie errante dans laquelle tant de corps se emploient, pour finir misérablement sous le fusil d'un gendarme, un courage et une énergie dignes d'une plus noble cause. Alors aussi commença pour Seca une vie nouvelle. Retenue prisonnière dans le village dont elle ne pouvait plus sortir, maltraitée par son père et par ses parents, elle sentit son cœur se raidir contre les mauvais traitements dont elle était l'objet et s'attacher davantage à celui qui lui coûtait tant. Observée le jour, elle s'échappait chaque nuit pour aller porter quelques paroles d'amour et de paix à celui qui avait tout perdu pour elle. Elle prenait dans son sommeil pour le voir, sur sa nourriture, le pain qui devait soutenir sa misérable vie. Elle seule connaissait l'impénétrable asile où il s'était réfugié, et chaque nuit, lors même que le tonnerre grondait sur sa tête, lorsque la pluie entraînait sous ses pas les pierres roulantes du sentier, lorsque les hauts pins, brisés par l'ouragan, s'abattaient sur son passage, Seca n'en montait pas moins l'âpre sentier qui menait à la retraite de Pietro. Si le vent était fort, si la pluie était froide, elle n'en savait rien. Pauvre jeune fille. Tandis que mon guide, touché lui-même plus que je ne l'en aurais cru capable, me racontait avec son émotion naïve l'histoire de ces cas, il me semblait la voir, belle encore, comme on l'est quand on est animé de cette sublime expression que nous prête le dévouement, franchissant au milieu de l'orage ses épais taillis, ses sentiers escarpés qui déchiraient ses pieds nus. Je me la peignais arrivant dans cette triste tanière où, pour un instant du moins, elle apportait le bonheur, partageant la couche humide de Pietro, réchauffant sur son sein brûlant cette tête glacée par la froide tramontane, et trouvant de douces paroles pour amollir cette âme aigrie par l'infortune. Oh, qui pourra dire quel dut être l'amour de ces deux êtres, bannis du monde par leurs fautes comme par leurs souffrances, réduits à cacher comme des bêtes sauvages entre les rochers et les buissons de la montagne, leur hymen taché de sang. Quel trésor de tendresse il devait y avoir dans l'âme de cette femme qui, amante et fille à la fois, devait déguiser son amour comme un crime et dérober l'une de ses affections à l'autre en trouvant pourtant dans son cœur place encore pour toutes les deux. Nous nous arrêtâmes et pour la première fois, je songeai à regarder autour de moi. Nous étions sur une plateforme de rochers qui dominait toute la vallée. Au fond était une caverne défendue par une sorte de rempart naturel, mélange de pierres et de maquis. Deux croix de bois s'élevaient près de l'entrée. C'était là que je devais trouver Seca. C'était là que sa raison l'avait quitté pour jamais. J'approchai, saisie d'une émotion qui allait jusqu'à la terreur. Elle n'y était pas. Une couche de fougère flétrie, une croix grossièrement sculptée dans le mur et des fleurs desséchées composaient tout l'ameublement. Les murs étaient encore sillonnés par des balles. Nous gardâmes quelque temps le silence, nous nous assîmes, et mon guide reprit son histoire. On ne tarda pas à découvrir le secret de Séka. On ne lui fit point de reproche. Elle devait être assez punie. Mais on se servit d'elle, comme le chasseur se sert de l'animal privé pour attirer son compagnon dans le piège. La nuit suivante, on la laissa s'échapper encore, et on la suivit. Ici, mon guide se leva brusquement, et avec sa vivacité méridionale, « Séka était là, dit-il, où vous êtes assis, et Pietro à ses côtés. » La lune éclairait en plein la vallée et l'entrée de la caverne, dont le reste était dans l'ombre. C'était une de ces belles nuits d'été dont un jour brûlant fait sentir le charme. On n'entendait que le murmure lointain du torrent et le frémissement du vent de terre dans les aiguilles de pin. Séka, épuisé de fatigue, dormait sur l'épaule de Pietro, qui retenait jusqu'à son haleine pour ne pas réveiller sa bien-aimée. Un bruit léger se fit entendre. Un habitant de la plaine l'aurait pris pour le pas rapide du chamois ou le vol de l'oiseau de nuit. Mais l'oreille exercée du bandit ne s'y trompa pas. Pietro tressaillit, et ce mouvement réveilla Séka. « Écoute, lui dit-il. » Le bruit avait cessé. Pietro saisit sa carabine et s'avança vers l'entrée de la caverne. Le sentier était désert, tout était calme. La figure pâle de Séka s'avança par-dessus l'épaule de son amant. « Je ne vois rien, » dit-elle. « Ce sont eux, » répéta-t-il. « J'ai vu remuer le feuillage, là-bas. » Au même moment, un éclair brilla sous les châtaigniers, quelques balles sifflèrent. Pietro tomba. Il se releva, mais sur ses genoux, trop faible pour se tenir debout. Caché derrière une saillie de rochers, Pietro avait tendu à Séka sa cargaison de balles bien fournie, et placée elle-même derrière lui, elle chargeait tour à tour un de ses deux fusils qu'elle lui repassait. Insensible au danger, la courageuse jeune fille ne songeait qu'à son amant, qu'elle voyait pâle et sanglant s'appuyer contre le rocher et s'affaiblir à chaque instant. Cette lutte inégale ne pouvait durer. Une balle, après avoir effleuré la joue de Séka, cassa le bras droit de Pietro. Mais l'œil brillant encore de haine et de courage, il tendit à Séka le fusil chargé de la dernière cartouche de sa carabine. « Tire !» lui dit-il, en lui montrant du doigt un ennemi qui s'avançait. « Tire comme la vraie femme d'un Corse, et ne manque pas ton coup !» Le coup ne manqua pas. L'homme tomba. « Je suis vengé !» s'écria Pietro avec une joie féroce. « Séka, c'est ton père !» L'infortuné n'en entendit pas davantage. Le ciel prit pitié d'elle sans doute et lui déroba le sentiment de son malheur. Depuis ce moment, privé de raison, ne pouvant supporter aucune contrainte, pas même celle des vêtements, elle erre au hasard au milieu de la forêt. Attirée de temps en temps par la faim dans le village pour y mendier un peu de pain qu'on ne lui refuse jamais, plainte d'abord et négligée ensuite, comme toutes les infortunes, elle passe ses nuits dans cette fatale caverne où une sorte d'instinct vague la conduit. Un espoir confus de retrouver son Pietro la ramène parfois sur le chemin, mais c'est une habitude plutôt qu'une pensée. Nous redescendîmes à pas lents vers Bastilica. Mon guide, moins parleur que de coutume, et moi silencieux. Nous ne la revîmes plus. Seulement la brise de terre qui s'élevait nous apporta de loin quelques sons d'une de ces longues cantilènes corses, tristes comme toutes les mélodies de montagne, et dont la dernière note se prolonge comme un écho. Je reconnus cette chanson d'amour que j'avais entendue tant de fois dans mes excursions, et que Pietro, peut-être, avait chanté. C'était encore la pauvre Séka.